France Culture.
Hey, non ?
France Culture.
Et là, je m'entends toujours pas. Je m'entends pas là.
Votre volume est là.
Le Book Club.
Ah oui, d'abord vers la gauche. Non, rien. Et maintenant vers la droite. Vers la droite, rien. Ah, j'ai dans les deux, ça y est, la balance est en train de se faire.
Dans la bibliothèque d'Anne Alvaro.
Il a réussi, voilà.
Merci Greg.
C'est qui ?
Greg.
Grégory.
Merci Greg.
Marie Richeux.
C'est confort dans la vie quand même de pouvoir régler le volume de la voix des gens.
Ouf.
Est-ce que la voix qu'on a dans la tête quand on lit ressemble à la voix qu'on a quand on parle ? Ressemble-t-elle à celle qui profère sur une scène de théâtre ? Ressemble-t-elle à celle qu'on a au bout du fil ? En tout cas, vous dites, Anne Alvaro, qu'avec la voix, vous savez où vous en êtes. Elle ne peut pas tricher. Elle est un repère absolu. Vous dites aussi que la lecture à voix haute est un exercice adoré, un plaisir physique tout singulier, et que vous avez bonheur à vous imaginer vieillir avec certains textes. Voilà. Vous êtes comédienne de théâtre et de cinéma, vous êtes aussi une grande interprète de radio. On en a reçu bien des textes grâce à vous, alors on a eu envie de faire votre portrait de lectrice et d'aller y voir de plus près dans votre bibliothèque. Merci beaucoup Anne Alvaro d'apporter un petit peu de votre bibliothèque, de vos bibliothèques. Dans
merci,
studio.
Merci à vous.
Ça nous fait très très plaisir de vous recevoir. On est un petit peu chez vous. Je dis virtuellement parce que vous avez apporté comme ça quelques livres, 4 ou 5. On vous a demandé de drastiquement réduire. Mais vous êtes aussi généreusement venu avec des photos de votre bibliothèque. C'est une bibliothèque qui n'est pas tout à fait à Paris. C'est dans un autre endroit, dans une maison. Alors à quoi ressemble-t-elle cette bibliothèque ?
Ce sont des bibliothèques. Ouais. La maison, sont les bibliothèques. Les bibliothèques sont la maison. C'est un peu un grenier de théâtre aussi, cette maison, à la campagne. Donc il y a des livres un peu partout, dans toutes les pièces. C'est une longère, donc il y en a à l'étage et puis au rez-de-chaussée, dans les pièces là-haut, dans la grande pièce du bas. Donc c'est une longère tout en briques et ardoises. Et avant, les livres étaient posés sur des planches retenu par des briques. Mmh. Et puis après, on est arrivé à faire des choses un petit peu plus confortables pour les livres, les protéger un peu de la poussière, de l'humidité. Mais je reviendrai à ça, parce que l'extrait que j'ai choisi de Virginia Woolf, il parle vraiment de ça, de la hantise de protection de la maison qui fout le camp quand on n'y va pas assez souvent, quand on la soigne pas. Pour revenir aux bibliothèques, à un moment, je me suis dit qu'il fallait... Bon, c'est évidemment pas bien rangé, pas rangé. Mais il y a des sortes de classements très jolis, casiers de toutes les couleurs pour les livres de poche, par exemple. Et puis une grande bibliothèque Ikea ou Habitat, je sais plus, où j'ai prétendu mettre que les autrices, que les femmes qui écrivaient. Et puis c'était
depuis
pas suffisant.
Quand vous avez fait ça?
Oh, il y a pas mal de temps, une bonne dizaine d'années, c'est pas 15, je pense. Mais c'est pas suffisant, il y en a partout. Donc il y en a partout, des femmes et évidemment des hommes. Et une bibliothèque où il y aurait que l'Amérique du Sud, ou une rangée où il y aurait que ce qui est asiatique. Bon, c'est un peu n'importe quoi.
En tout cas, vous dites, la maison, c'est les livres, c'est la maison. Ça vaut, j'imagine, en vous écoutant d'un point de vue matériel, mais est-ce que ça vaut aussi pour ce que ça dit intellectuellement ? C'est-à-dire qu'est-ce que pour vous, les livres, c'est aussi un lieu d'habitation, c'est aussi un repère, c'est aussi un chez-soi ?
Oui, c'est un refuge. Oui, ça peut être un refuge. J'apprends, je retrouve, je découvre. Dans votre introduction, vous parliez de la voix, et comme j'aime lire, et c'est aussi ça qui m'a orientée dans mon choix drastique, comme vous disiez, c'était de revenir aux livres que j'avais vraiment découverts en les lisant à voix haute ou à voix murmurante. Donc il y a une voix, c'est pas la voix de profération comme vous disiez, la voix de théâtre, où c'est juste de proférer, de se faire entendre. Mais la voix pour découvrir un auteur, tirer le fil de la phrase et découvrir ce qui s'écrit, comment on est harponné doucement, tendrement ou violemment par un auteur, c'est avec la voix que j'arrive à... Je reconnais ça maintenant.
Mais la voix haute, pas celle qu'on a dans la tête quand on lit.
Non, pas la voix dans la tête, parce que la voix dans la tête, c'est les yeux. Mm. C'est la voix des yeux et c'est pas suffisant. Mm. C'est pas suffisant pour apprécier.
Mais toujours vous commencez par lire à voix haute quand vous ouvrez un livre.
J'en ai pris conscience il y a quelques années aussi, mais je dirais pas toujours. Mais quand c'est irrépressible,
c'est bon signe.
Ouais, c'est bon signe. Ouais,
quand vous dites signe. Ok, bon là il va falloir que je passe en voix haute, ça veut dire que ça y est, vous entrez dans le texte.
Oui, à voix haute, enfin voix murmurante. Ouais. C'est-à-dire que tout ça pour m'empêcher de lire trop vite, parce que je lis trop vite, je peux lire goulûment. En me disant, bon, j'y retournerai, je le relirai, mais c'est pas vrai. On relit pas tout ce qu'on a lu. Je commence maintenant à relire.
Donc à voix haute, ça ralentit aussi. Ça.
Oui, à voix haute, forcément, ça ralentit. Ça permet d'entrer dans le paysage de la page, de s'arrêter, de suspendre aux virgules, enfin, d'être dans une conduite automatique. De circulation, des points de suspension, point d'exclamation, virgule, point virgule, tiret.
Vous avez un bon
crochet.
Bon permis de conduire de lectrice.
Ah, j'adore. Ouais, j'adore. Ouais.
Souvent, vous avez raconté votre rencontre importante avec le théâtre à 9 ans, à Créteil. Oui. Mais si on remonte un tout petit peu avant, est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez appris à lire?
Alors, Je m'attendais à cette question et à chaque fois que j'entends votre émission, j'entends cette question et me revient une histoire que racontait ma mère et dont je crois me souvenir, même si le fait qu'elle le racontait.
C'est peut-être refabriqué, mais on ne sait pas.
Comme quand on voit des photos et qu'on se souvient que, voilà. C'est que elle venait me chercher à l'école maternelle ou CP, je ne sais pas. La petite école de la rue. On appelait l'école des Buttes, à Créteil, derrière le Carmel. Voilà, il y avait un Carmel.
C'est quoi ?
Un endroit où il y avait des carmélites.
Ah !
Et entre le pont de Créteil et le Carmel, il y avait cette école, la petite école. Ma mère venait me chercher et un jour, elle racontait que, en sortant de l'école, je lui avais demandé ce que c'était que le Et ça avait fait beaucoup rire. Elle avait fini par comprendre qu'il s'agissait de la lettre L, qu'on apprenait à écrire et à lire lettre par lettre, et que le L, c'était le L. Voilà. Donc je me souviens de ça. Ça a occulté tout mon souvenir d'apprentissage de la lecture. Je ne me souviens pas d'avoir appris à lire.
C'est beau parce que c'est une lettre.
C'est un son.
Ouais, c'est vraiment, c'est, ça vise.
Oui, c'est un son.
Par ailleurs, c'est L. Ce qui est assez beau, puisque vous parliez des bibliothèques dédiées aux autrices femmes, c'est assez intéressant. Et vous dites que vous êtes aujourd'hui, ou vous pouvez être aujourd'hui une lectrice qui avance goulûment. Est-ce que ça a tout de suite été le cas? Est-ce que vous avez été une enfant passionnée de livres et de lecture?
Oui, je me souviens lire, d'entendre ma mère disant, mais sors, viens prendre l'air. Je sais plus trop ce que... J'ai encore des livres de cette époque, donc qui devaient être dans la bibliothèque de mes parents, mais des livres comme Maxence van der Merch, Corps et âme, en 3 volumes, qui racontait l'histoire d'un étudiant en médecine.
Ça lisait beaucoup chez vous?
Je me souviens pas, je saurais pas dire ça, mais en tout cas, il y avait une bibliothèque. Il y avait toute une sélection des Reader Digest, par exemple. Il y avait des livres. Et puis j'ai commencé vraiment à lire quand j'ai commencé à faire du théâtre, d'abord en loose day, en prenant des cours, en séchant le lycée, en allant prendre des cours chez Jean Périmoni, habitant Créteil. C'était quand même plus d'une heure de voyage en autobus puis en métro, et je lisais dans le métro.
Et vous lisiez quoi à ce moment-là?
Je devais lire du théâtre, je sais pas trop ce que je lisais, mais je devais lire du théâtre, oui, je devais lire ce que je travaillais au cours. Je me souviens pas particulièrement d'un livre que j'aurais lu dans le métro, mais je lisais dans le métro, c'est sûr que je lis. Et je lis toujours dans le métro.
Et aujourd'hui, c'est pareil, il y a quelque chose de vos lectures qui se rattache inévitablement à votre métier, Anne Alvaro. Est-ce qu'il reste de la place pour d'autres lectures?
Oui, j'essaye. Oui.
Pour ce qui n'est pas.
Il y a un peu les livres obligés, mais oui. C'est du bonheur les livres obligés aussi. Les livres à travailler, voilà, les textes à travailler. Et puis, en plus, je me rends compte quand j'ai commencé par trier ma bibliothèque de Paris avant de partir retrouver Pedro Soler. Et je me rendais compte que, en fait, dans cette bibliothèque-là, il y avait, si ce n'est la moitié, au moins les deux tiers que je n'avais pas lus. En fait, je thésaurise. J'ai des achats compulsifs en librairie, quoi. Je suis pas encore passée au stade d'aller dans des bibliothèques municipales.
Et alors, quand vous avez trié, donc?
Eh ben, j'ai constaté que j'en avais encore beaucoup, tellement, tellement à lire que, soit qu'on m'offre, soit que j'achète l'auteur, le titre, je ne sais pas.
Vous n'avez pas choisi de texte de théâtre pour ce parcours de bibliothèque, et on viendra tout à l'heure à ce qu'on appelle les textes étapes, ces fameux grands choix qu'on vous a demandé de faire, Anne Alvaro. Et pourtant, vous racontez souvent la manière dont physiquement le théâtre vous habite, dont les mots vous habitent, le plaisir aussi que c'est pour vous de dire, de porter les textes sur scène. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelque chose, puisqu'on n'y reviendra pas, de ce que c'est qu'un livre de théâtre qu'on lit chez soi, qu'on a chez soi?
Ah, je ne saurais pas... Un livre de théâtre?
Oui, c'est-à-dire une pièce de théâtre.
Une pièce de théâtre, ouais. C'est dur à lire du théâtre. C'est dur à lire, c'est du boulot. Ça ne va pas de soi. Et quant à choisir un texte de théâtre, non, je répugnais à retourner un texte que j'aurais déjà joué ou que j'irais à jouer. Ou, non, j'avais pas envie de ça.
Mais c'est dur à lire, je veux dire, mais dans votre vie de lectrice, ça occupe une place importante quand même, les pièces de théâtre.
Ouais. Oui, oui.
Mais c'est le travail.
Oui, c'est un peu laborieux. Quelquefois, il arrive qu'on tombe sur un texte et il y a une évidence de rencontre. Mais c'est pas si fréquent.
Est-ce que vous avez un souvenir comme ça, où les choses, elles se sont... vous avez ouvert un livre, une pièce de théâtre, et c'était autre chose que le labeur de l'incorporer pour ensuite le porter sur scène?
Non, j'ai pas de souvenir. Ce serait classique, quoi. Quand j'ai lu Platonov, par exemple. Quand j'ai lu Platonov la première fois. Parce que je l'ai joué deux fois le même rôle à 17 ans d'intervalle. Je suis très fière de ça, en fait. Fière parce que heureuse d'avoir plongé dans ce personnage, cet auteur. Bon. Mais, par exemple, le Gertrude de Barker, j'avais commencé à le lire et puis je l'avais mis de côté. Je me suis dit, ah non, c'est pas pour moi, j'aime pas. Et puis, quelques mois ou années après, on m'a fait la proposition de le jouer. Et j'ai commencé à le lire avec, en présence du metteur en scène, Giorgio Barbaro Corsetti. Et j'ai compris que c'était pour moi maintenant. Donc il y a des rapports avec les textes, aussi avec les rôles. Quand on vous propose de lire une pièce de théâtre avec tel rôle à la clé, c'est compliqué parce qu'on est, on essaie de lire la pièce, mais on lit la pièce à travers ce qu'en représente le personnage en question. C'est du travail. C'est du travail de tri, de bien être attentif à ses impressions, aux sentiments que ça procure, quoi. On est une espèce de bouillon d'impressions. Il y a que Virginia Woolf pour en parler aussi bien.
Dans la mini-bibliothèque portative que vous avez bien voulu apporter ici en studio, s'est glissé un disque.
Oui.
C'est celui de Pedro Soler, c'est un disque qui s'appelle Luna Negra. On va écouter un titre de ce disque-là. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots ou on écoute sans introduction?
Entendre Pedro Soler, c'est déjà du bonheur. Il est parti, mais il est toujours là. Il est tellement, tellement présent.
On écoute. Thank you.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque d'Anne Alvaro, Marie Richeux.
Donc vous êtes venue avec ce disque, Anne Alvaro, pour déballer votre bibliothèque. Et c'est de ce disque-là, de cette chanson-là, qu'on va aller tranquillement vers le premier choix. C'est un texte de Federico Garcia Lorca, qui est une conférence, c'est tiré d'une conférence de 1930. Est-ce que vous voulez nous dire comment est-ce que vous êtes arrivée à ce que ce texte-là ouvre votre déballage de bibliothèque, Jeu et théorie du duende?
Garcia Lorca, parce que Pedro Soler, même si avec Pedro Soler et Gaspar Claus, son fils, on s'est surtout retrouvés depuis une vingtaine d'années avec des textes d'Antonio Machado, qui m'offrait de dire en espagnol et aussi en français, mais en espagnol, qui était pour moi la première fois. Et je me suis souvenue qu'on s'était rencontrés grâce à Claude Guerre pour une émission, un enregistrement au Théâtre de l'Aquarium. On enregistrait des textes de Lorca. Et voilà, c'est avec Lorca qu'on s'était rencontrés, Pedro.
Ça ouvre votre bibliothèque. Peut-être je vous laisse nous en lire un extrait. Vous le lisez dans la traduction de Lynn Anselm et c'était paru aux éditions Alia.
Un jour, la chanteuse andalouse Pastora Pavón, la Niña de los Peines, sombre génie hispanique d'une capacité de fantaisie équivalente à celle de Goya ou de Rafael El Gallo, chantait dans un petit cabaret de Cadix. Elle jouait de sa voix d'ombre, de sa voix d'étain en fusion, de sa voix couverte de mousse des bois. Et elle l'emmêlait dans sa chevelure, ou elle la trempait dans du vin de manzanilla, ou elle la perdait dans des labyrinthes obscurs et très lointains. Mais rien ne se passait. Pas le moindre effet. Le public ne réagissait pas. Pastora Pavón avait fini de chanter au milieu du silence. Alors un petit homme, seul, et plein de sarcasme. Un de ces petits bonshommes qui sortent tout à coup en dansant des bouteilles d'eau de vie, a dit tout bas « Viva Paris !» Comme pour dire « Nous, on n'est pas là pour du savoir-faire, de la technique ou de l'habileté. On veut autre chose. » Alors, la Niña de los Peines s'est levée comme une folle, pliée en deux comme une pleureuse médiévale, et elle a avalé d'un trait un grand verre d'anis de cassagia, brûlant comme le feu. Et là, elle s'est rassise pour chanter, sans voix, sans souffle, sans nuance. La gorge en flamme, mais avec Duende. Elle avait réussi à tuer tout l'échafaudage de la chanson pour laisser place à un Duende, furieux et dévastateur, ami des vents chargés de sable, qui poussait les gens de l'auditoire à déchirer leurs habits, presque selon le rythme des Noirs antillais de rite Lukumi, quand ils se les arrachent pelotonnés devant une statue de Sainte-Barbe. La Niña de los Peines a dû se déchirer la voix parce qu'elle savait que les plus fins connaisseurs l'écoutaient, qu'il ne voulait pas de forme, mais la moelle des formes, de la musique pure qui réduit le corps à ce qu'il faut pour rester en suspens. Elle a dû appauvrir son savoir-faire et son assurance. Donc, elle a dû éloigner sa muse et demeurer sans défense pour que son duende vienne et qu'il daigne se battre à main nue. Et il faut voir comment elle a chanté. Sa voix ne jouait plus. Sa voix était un flot de sang, digne, par sa douleur et sa sincérité, de s'écarter comme une main à 10 doigts sur les pieds cloués mais pleins de tourmente d'un Christ de Juan de Juni.
Pas les formes, mais la moelle des formes.
Oui, c'est la source, quoi, en fait. C'est toujours ça, hein. Faut toujours revenir. Ils le disent tous, hein, les peintres comme les plasticiens, les sculpteurs, les chanteurs, évidemment, les acteurs, mais peut-être aussi les écrivains. Ils parlent de la forme, bien sûr. Mais oui, la moelle des formes, oui, on peut pas dire mieux. On peut pas dire mieux. Je sais pas comment est traînée la moelle des formes. Je peux regarder. Musica pura con el cuerpo. Non. Oyendo tu que desgarras tu voz porque sabía que estaba. No pedía formas, sino tuétano de formas. Je sais pas ce que c'est tuétano.
C'est peut-être la moelle.
Oui, dans mes formes. Musica pura.
Je me souviens de vous avoir un jour entendu dire que le théâtre, parfois, ça pouvait ne pas se trouver un soir et puis se trouver le soir d'après. Et souvent, les musiciens disent ça en parlant de la musique ou en parlant de duende ou en parlant de cette chose-là qui, en fait, un jour se trouve et parfois se trouve pas. Est-ce que c'est aussi ça qui vous attache au théâtre et au texte, Anne Alvaro? C'est le fait que, à un moment donné, ça se trouve. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Et c'est d'ailleurs le génie de ce texte de 1930 de Federico Garcia Lorca. Mais...
Ouais, Casares, elle disait, il y a eu théâtre ou il n'y a pas eu théâtre. c'était clair. Hein. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à faire du théâtre, c'était une douleur de revenir jouer quand ça s'était trouvé. C'était douloureux, c'était une tâche,
Pourquoi? C'était du tourment.
C'était du tourment que d'avoir à recommencer, à retenter le saut périlleux. Maintenant ça a eu lieu, on va réessayer. Ça a pas eu lieu, alors tant mieux, on va y retourner, quoi.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire aussi dans la lecture, c'est-à-dire que c'est difficile de trouver des mots, mais en gros, oui, des épiphanies ou une émotion, quelque chose qui vous
épiphanie, saisit. C'est bien, c'est bien comme mot, ça.
Ouais. Oui, mais c'est pas tout à fait aussi classe que duende, quoi. Ça claque, moi.
On peut dire épiphanie pour une lecture, je sais pas. Moi, ce que j'aime aussi dans l'exercice de la lecture, c'est que c'est une fois. C'est rare quand c'est 2 fois, 3 fois. Oui, ça peut arriver. Mais c'est pas tous les soirs, quoi.
Vous vous rappelez comment vous avez découvert ce texte de 1930 de Federico Garcia Lorca?
J'avais dû lire quelque chose dessus par ce livre, parmi les premiers livres de théâtre que j'ai eus et que j'ai lu avec bonheur, avec goulûment, là, pour le coup, j'apprenais tout. Il y avait ce livre de Marcel Auclair sur Garcia Lorca. Peut-être elle en parlait dans ce livre.
Et ça vous avait mis la puce à l'oreille.
Oui, ça m'était familier. Duende, ça m'était, le mot duende, ça m'était familier.
On va vers un deuxième texte. Vous vouliez poursuivre peut-être avec Giono.
Oui.
Alors, est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous avez choisi Giono?
Alors Giono, c'est très très intime. Pour saluer Melville de Giono, je l'ai lu pour la première fois. J'ai été lectrice amoureuse pour la première fois avec ce texte-là.
C'est-à-dire ?
Donc je l'ai lu en entier à un homme que j'aime, voix murmurante ou voix pour lui, pour son oreille à lui. Mais en entier, je me souviens.
Et tout d'un coup ?
D'une journée à passer ou d'une après-midi jusqu'à un début de soirée à lire ce livre. Oui, à lui lire ce livre. Donc je voulais retrouver. C'est pour ça que maintenant c'est compliqué parce qu'après le Duende, il y a un moment de combat avec l'ange. Et puis, mais en même temps, je l'avais pas relu depuis.
Le Pour saluer Melville.
Oui, Pour saluer Melville. Et donc, ce que je voulais retrouver quand je l'ai ressorti de la bibliothèque, je voulais retrouver le quand il achète son caban ou quand il mange le riz au crabe. Donc, peut-être que je vais lire le riz au crabe.
Avant que vous vous lanciez dans la lecture et qu'on entende peut-être la voix de Giono, Anne Alvaro, ça veut dire qu'il y a dans le fait de lire un livre à quelqu'un, un geste d'amour singulier. Enfin, est-ce qu'on peut s'attarder un instant là-dessus, puisque vous nous proposez
qu'on... il s'agit d'un partage, il s'agit de délivrer un trésor, un secret.
Mais qu'est-ce qui se partage dans ce geste-là, quand vous décidez de lire un texte une après-midi entière ou une journée, puis une nuit entière à quelqu'un? Qu'est-ce qui vient en partage?
L'auteur. C'est lui le premier, c'est lui qui gagne. Hein. De toute façon, c'est toujours lui.
C'est vrai.
C'est lui d'abord.
Ah oui, c'est plus que l'amour là dans cette.
Non, je parlais de au théâtre. Plus que l'amour, je sais pas, mais ça fait partie de l'amour que de partager des auteurs, se confier des ou de début d'une amitié ou d'une manière de faire connaissance aussi.
Vous l'avez toujours fait ? D'adresser des textes ou partager des textes à des gens que vous aimez ?
Comme celui-là ?
Non.
Comme Pour saluer Melville ? Non, je ne l'ai fait qu'une fois. Pour saluer Melville.
Et vous écrivez tous les jours, ce qui est si extraordinaire. Enfin, difficile à imaginer.
Tous les jours et tout le jour. Tout le jour et tous les jours. Je me lève tard maintenant, étant donné que je suis obligé à astreindre un repos de toutes les matinées, mais je règle mon courrier dans la matinée, puis après, de 2h à 7h, j'écris tous les après-midi.
C'est le plaisir pur de...
Le plaisir pur, c'est le plaisir véritablement, sans aucun mélange, de décrire. D'écrire, de me livrer à ce travail de marqueterie qui est le style, le remplacer tel mot par une virgule, ou remplacer cette virgule par un adverbe, ou allonger la phrase, ou la raccourcir, sentir le rythme se faire, ou le chercher, se heurter contre les difficultés, voir naître au milieu par le caractère, voir naître le style, ou parfois par le style, voir naître le caractère des personnages. Alors ça, c'est mon plaisir personnel. Une fois que c'est écrit, mon plaisir étant fini et terminé, et ne pouvant se continuer que dans une nouvelle écriture, le reste, voir un livre édité ou m'intéresser à son sort, ne ferait que ralentir mon bonheur ou le retarder, et c'est pourquoi je ne m'en sers pas.
C'était un bistrot de marin et il n'y avait pas grand monde à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'il faut, dit le patron. Donne-moi à manger. Il le rappela. Et du stout. Il y avait deux types appuyés contre le comptoir. Ils fumaient de courtes pipes. Le patron revint. C'était un homme à gros ventre, mais sa grosseur partait des épaules et s'emmanchait sur de fortes jambes assez longues. Il avait un tablier à bavette, tout rasé et la gueule en buis. Bouledogue de la mâchoire et des narines, avec des petits cheveux courts, presque rouges, tout bouclés. T'as pas rencontré des gars du Royal James par hasard? Non, pas vu du tout. T'es pas du Happy Return, toi? Non, semblait. Me figurait t'avoir vu. Alors dis donc, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Donne ce que tu as. Naturlich. Il y en a trois du Royal qui sont venus après-midi pour me dire qu'ils bouffaient ici ce soir. Ils m'ont demandé du riz au crabe. J'ai ça et une soupe de merlan, si tu veux. Vas-y pour ça, mais dis donc, arrange-toi pour qu'il leur en reste. T'en fais pas, j'en ai mis au moins pour 10. C'est des gars à qui il faut pas en promettre, tu sais. Bien, alors, vieux, à moi, donne-moi comme pour deux. De derrière, le patron est encore plus gros que de devant. T'en fais pas, mon gars, pense Herman. Si tu veux m'avoir, faudra te lever de bonne heure. Tu peux toujours courir si tu veux me faire croire à tes gars du Royal. Je te parie une semaine de solde qu'on n'en verra pas le bout du nez de tes gars du Royal. Le coup des gars du Royal, on le fait sur tout le pourtour des mers du monde, dans tous les bistrots où l'on bouffe. Je connais le coup, tu parles, ça m'a été fait 100 fois. Mais vas-y mon gars, t'en fais pas comme tu dis. Ce soir je suis en train de me mentir, alors je marche avec plaisir. Je te crois comme l'écriture. Je vais collaborer en douce à la nouba préparée soi-disant pour ceux du Royal. Mais le riz est extraordinaire. Ah, ça, vraiment. Herman, la bouche pleine, a regardé le patron et le bulldog lui a cligné de l'œil. Ça, c'est du riz au crabe. Il est impossible de manger du riz comme ça ailleurs que dans les Philippines. Le patron est du bâtiment. Herman avale sa bouchée, lève le doigt en l'air. Le patron s'arrête d'essuyer son verre. Herman cligne de l'œil et dit « Mindanao ». Le bulldog dit « Oui, Vergara, au fond de la baie ». Et il cligne aussi de l'œil. C'est épatant de tirer les petits crabes de dedans le riz avec les doigts, les sucer, les léchicoter de partout avec le jus qui leur coule de toutes leurs jointures, les ouvrir à deux mains carrément en se foutant de la sauce jusque dans les paumes et de pomper tout le vert, le rouge, le brun de là-dedans. J'en ai l'eau à la bouche. De passer la langue dans la coquille et mâchouiller toutes ces coquilles, ces os, ces iodes, ces goûts de mer, ces jus. Ah, que c'est bon. Et puis se lécher les doigts carrément. Quand il a fini, il n'a pas du tout envie de soupe de merlan. Ça va faire blanc, ça va faire mer du Nord. Non, il n'a pas épuisé son désir de curry, de poivre, la chaleur rouge, verte et brune des crabes, le riz, les côtes basses dont les sables que le vent déroulait comme des cheveux allaient battre les collines cassées par le miroitement des rizières. Il vient au comptoir avec sa chope vide, il frotte le cul de sa chope sur le zinc. Alors quoi de neuf, dit le patron. Vas-y encore un coup avec ton riz pour deux. Tant pis pour les gars du Royal. Et puis dis donc, il fait signe à l'autre de s'approcher, il montre la chope vide. Remets-moi du stout et colle-y en douce, un bon verre de gin dedans, ça remonte le moral. T'as pas l'air d'en avoir besoin, dit le bulldog. On sait jamais.
Pour saluer Melville, Jean Giono, Anne Alvaro. Je te crois comme l'écriture, ce soir je suis en train de me mentir.
Mais c'est tellement beau, ouais. C'est tellement beau. Et c'est ce qu'il fait pendant tout ce texte qu'il écrit. En fait, il a traduit avec deux autres personnes dont je ne sais plus les noms. Il a traduit Moby Dick. Et on lui demande une préface.
Sur Herman Melville.
Sur Herman Melville. Une préface à Moby Dick. Et puis il en ajoute un petit peu l'éditeur. Je crois que c'était Gallimard. Je suis pas sûre. Et en lui disant, mais non, mais écris quelque chose de plus sur Melville, sur une petite bio de Melville. Et il écrit son Melville à lui, quoi. Qui est lui, qui est Giono. Hein, et c'est magnifique. Il y a une histoire d'amour. C'est extraordinaire, ce livre. C'est une merveille.
Paru en 1941. J'adore Giono. Oh, trop beau. Aux éditions Gallimard, un texte de 1941. Je crois complètement changer de décor. Mais on n'est pas très très loin de la mer, au final.
Oui.
Avec un texte que vous choisissez, qui est un de mes textes préférés. J'arrête pas de le dire à chaque fois qu'on le rencontre, mais voilà.
Oui, parce que je crois qu'il est souvent élu.
En fait, il a été élu par Michel Perrault dans les portraits de bibliothèque jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'il arrive comme ça dans les conversations. To the Lighthouse, dans le titre original, et Vers le phare, qui est paru en 1927 en Angleterre, signé Virginia Woolf. Il est traduit par Françoise Pélan chez Gallimard en 96. Voilà, c'est une soirée d'été sur l'île de Skye en Écosse. Et puis au loin, il y a un phare et un enfant rêve d'aller au phare. Et il y a Mrs. Ramsay. Il y a beaucoup d'autres choses. Un livre beaucoup sur le regard, sur les sensations, sur la peinture, sur la maison. Bon, pourquoi vous l'avez choisi, Anne Alvaro ?
Moi, j'aime tellement cette partie de la deuxième partie qui est très courte, qui est cette parenthèse dans le temps qui s'appelle Le temps passe. Et j'ai été initiée à ce texte par David Lescot. Et quand je l'ai lu, en fait, pour continuer, comment j'ai choisi les livres, en fait, j'ai découvert Virginia Woolf en la lisant toute une après-midi, même deux après-midi, au soleil, à la campagne, mais en lisant à voix murmurante la chambre de Jacob. J'arrivais pas à trouver d'extrait de la chambre de Jacob.
Et là, comme... c'était pour vous, cette fois-ci?
Oui, c'était pour moi. Oui, là, c'était pour moi. Toute seule pour moi. Et à voix murmurante. Et je sentais que j'attrapais quelque chose de son écriture, comme ça. Avec les yeux, tout seul, j'y arrivais pas. Et donc, pour venir à... Après, j'ai découvert la promenade au phare, ou vers le phare, ou... Et David m'avait fait lire un extrait de un chapitre de du Temps passe, qui est comme elle raconte Virginia Woolf, elle faisait un dessin du la structure du livre qui était deux carrés séparés par un rectangle très étroit comme un couloir, un corridor.
Où est-ce que vous avez vu ça?
Je l'ai lu ou je l'ai entendu. J'adore. Dans les carnets de Chaminadour, Geneviève Brisac, qui parle avec Agnès de Sarthe de Virginia Woolf, merveilleusement. Elles en connaissent un rayon, toutes les deux, sur Virginia Woolf et sur tant d'autrices. Et donc, Le Temps passe, c'est mon moment préféré, parce que c'est le moment qui m'a fait tellement trembler. Justement, on revient à la maison. Le jardin, si la maison, le jardin, c'est pas entretenu, ça fout le camp, quoi. C'est terrible. La nature envahit, détruit, gâte, démantèle. C'est fait vraiment des dégâts, quoi. Des dégâts qui peuvent être irréversibles. Mais il y a Mrs. McNabb.
Alors, on lit un extrait.
Ouais, bon, je vais lire un extrait. Alors, j'ai finalement choisi cet extrait-là, mais j'ai pas arrêté d'hésiter, de passer de l'un à l'autre. Bref, je voudrais lire tout.
Rendez-vous dans votre jardin un jour de soleil.
Tout vers le phare. Sans penser à mal, puisque la famille ne viendrait pas, ne viendrait plus jamais, disaient certains, et que la maison serait vendue à la Saint-Michel, peut-être. Mrs. McNabb se baissa pour cueillir un bouquet de fleurs à rapporter chez elle. Elle les posa sur la table pendant qu'elle époustait. Elle aimait bien les fleurs. C'était dommage de les laisser perdre. Si la maison se vendait, elle se planta devant le miroir, les poings sur les hanches. Il y en aurait des choses à faire dedans. Ah, ça oui. Elle était restée là toutes ces années, sans personne pour habiter. Les livres et toutes les affaires étaient moisies, parce qu'avec la guerre et le mal qu'on avait à trouver de l'aide, la maison n'avait pas été nettoyée comme elle l'aurait voulu. Et maintenant, pour la remettre en état, une seule personne n'y suffirait pas. Elle était trop vieille. Ses jambes la faisaient souffrir. Tous ces livres avaient besoin d'être étalés au soleil, sur la pelouse. Il y avait des morceaux de plâtre dans le vestibule. Le tuyau de descente s'était bouché juste au-dessus de la fenêtre du bureau et l'eau rentrait à l'intérieur. Le tapis était complètement fichu. Mais les gens n'avaient qu'à venir eux-mêmes. Ils auraient dû envoyer quelqu'un de Londres pour voir. Parce qu'il y avait des vêtements dans les placards. Ils avaient laissé des vêtements dans toutes les chambres. Qu'est-ce qu'elles devaient en faire? C'était tout mangé au mythe, les affaires de Mrs. Ramsay. Pauvre dame. Tout ça, elle n'en aurait plus jamais besoin. Elle était morte, à ce qu'on disait. Il y avait des années, à Londres. Voilà la vieille cape grise qu'elle mettait pour jardiner. Mrs. McNabb palpa l'étoffe. Elle la revoyait encore quand elle montait vers la maison pour apporter le linge et qu'elle était là, penchée sur ses fleurs. Le jardin faisait peine à voir. Maintenant, ça poussait dans tous les sens et les lapins surgissaient des plates-bandes pour vous détaler sous le nez. Elle la revoyait dans cette cape grise avec un des enfants à côté d'elle. Là, c'était des bottines et des souliers, un peigne et une brosse laissés sur la coiffeuse, tout à fait comme si elle comptait revenir le lendemain. Tout était allé très vite à la fin, ce qu'on disait. Et une fois, ils avaient failli venir, mais finalement ça ne s'était pas fait, avec la guerre. Et les voyages qui étaient devenus si difficiles, ils n'étaient jamais venus toutes ces années. Ils lui envoyaient juste de l'argent. Mais il n'écrivait jamais, il ne venait jamais. Et il comptait retrouver les choses comme il les avait laissées. Ah là là! Tiens, il y avait tout un fourbi dans les tiroirs de la coiffeuse. Elle les tira à elle. Mouchoir, bout de ruban. Oui, elle revoyait encore Mrs. Ramsay quand elle montait vers la maison pour rapporter le linge. Bonsoir, Mrs. McNabb, qu'elle disait. Elle avait des façons aimables. Toutes les petites l'aimaient bien. Mais mon Dieu, beaucoup de choses avaient changé depuis ce temps-là. Elle referma le tiroir. Beaucoup de familles avaient perdu des êtres chers. Alors comme ça, elle était morte. Et Mr. Andrew avait été tué. Et Miss Prue, morte aussi, à ce qu'on disait, à son premier bébé. Mais tout le monde avait perdu quelqu'un ces dernières années. Tout avait augmenté, c'en était une honte, et on attendait toujours que ça rebaisse. Elle se rappelait bien d'elle, dans sa cape grise. « Bonsoir, Mrs. McNabb », qu'elle disait. Et elle demandait à la cuisinière de lui garder une assiettée de soupe au lait. Était bien sûr qu'elle en avait besoin, après s'être appuyée toute la montée depuis la ville en portant ce lourd panier. Elle la revoyait maintenant, penchée sur ses fleurs. Et tremblante et floue, tel un rayon jaune ou le cercle au bout d'un télescope, une dame en cape grise, penchée sur ses fleurs, se promena sur le mur de la chambre, la coiffeuse, la table de toilette, tandis que Mrs. McNabb, sans se presser, clopin-clopin, essuyait la poussière et mettait un peu d'ordre.
Bah, si vous avez envie de lire à voix haute indéfiniment, nous, on pourrait vous écouter indéfiniment lire ce texte-là, Vers le phare de Virginia Woolf, Anne Alvaro. Mmh. Vous disiez qu'il était souvent cité, mais par exemple, Michel Perrault, quand elle l'a sorti de sa bibliothèque, elle parlait de la manière dont Woolf parvient à rendre dans sa littérature le rapport que les femmes ont au temps. Et c'était ça qu'elle disait, elle,
oui.
Parce que c'est une historienne des femmes, parce qu'elle disait qu'elle avait aussi trouvé dans la littérature des manières de nourrir sa propre écriture de l'histoire des femmes, Michel Perrault, mais il me semble qu'il l'a, je sais pas, dans la manière dont vous l'avez lu, dans ce passage-là, il y a vraiment, une possibilité de raconter cette chose si intime et si indicible qui est notre propre rapport au temps, quoi.
Et au concret des choses de la maison, parce que Mrs. McNabb, dans un autre chapitre que j'aurais voulu lire, mais non, bon, d'accord.
On le pose.
Finalement, elle finit par, comme un personnage qui nettoie les écuries d'Augias, quoi. Elle refait vivre la maison parce qu'ils vont revenir.
Et là, elle dépoussière, elle met un bouquet de fleurs.
Oui, là, elle entretient un peu la maison, mais c'est pas suffisant. Il y a un moment où finalement, elle est avertie que il faut en mettre un coup et
elle la fait revivre. Quoi.
Et elle la fait revivre avec l'aide d'une autre personne, Mrs. Bax.
Ça me donne envie de la
lire. Et le fils de cette personne qui dont la pelouse, qui nettoie le jardin, ils font venir les ouvriers. Finalement, la maison est sauvée, quoi. Et moi, ça m'a fait un tel chagrin de voir la maison pourrir, et puis un tel bonheur grâce à Mrs. McNabb, qui est décrite un peu comme un personnage de Beckett. Clopin-clopin, une dame qui se plaint que... Ben, la vie, c'est ça, quoi. On se lève, et puis on se couche, on défait les choses, et puis on les range, et tous les jours comme ça, quoi.
Franchement, j'approuve. C'est vrai que c'est tous les jours comme ça.
C'est si long mourir, dit Beckett. Voilà, ben, elle pourrait dire ça, Mrs. McNabb. Il y a du Beckett dans Virginia Woolf.
Et puis vous êtes une femme de radio pour fabriquer de telles transitions. Anne Alvaro, là...
Bah, c'est parce que j'ai Molloy juste à ma gauche.
Bah oui, c'est ça.
J'ai mis Woolf à droite, maintenant j'ai Molloy.
Il fait partie de vos choix, ce Samuel Beckett et ce livre Molloy. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi même année d'ailleurs de parution que pour Saluer Melville, 1941, les deux.
Ah ouais.
Ouais, Molloy. Donc c'est un texte de Samuel Beckett. Qu'est-ce qui vous a fait le sortir et le faire figurer dans vos cinq livres étapes, Anne Alvaro ?
Oh, mais peut-être parce que ce livre, je l'ai beaucoup, beaucoup lu et travaillé. Vous voyez, il y a plein de petits...
Il y a plein de post-it.
Oh là là, plein de post-it et plein de soulignés, plein de... Toute cette année et même l'année dernière, quand j'ai commencé à plonger dans Beckett, grâce à Marie de Pusset.
Oh.
Marie de Pusset qui a écrit un texte qui s'appelle Beckett corps à corps, magnifique. Et elle m'a fait découvrir Beckett. Et puis j'ai eu l'occasion avec Sophie Rodriguez de faire un atelier à partir du clown et je prolongeais avec Beckett parce que j'avais lu Molloy. Et que j'aime ce personnage de Molloy. Voilà, je vais juste vous en lire une petite page et on va comprendre, je pense. Il est dans un commissariat. Il a échoué dans un commissariat. Bon, c'est
pourquoi
pas grave, il va en sortir.
D'accord.
Parce qu'il est là, parce que c'est un clodo, quoi. C'est un Il est déjà au bout du rouleau, même au début du bouquin, et il va finir par continuer. Par continuer à l'être, sans jambes, finir par trouver la solution de la reptation avec bonheur. Enfin, bonheur, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, il y a encore une solution. On peut ramper, voilà, pour Molloy.
Ok.
Mais voilà que soudain, devant moi, surgit une grande et grosse femme vêtue de noir, de mauve, plutôt. Je me demande encore aujourd'hui si ce n'était pas l'assistante sociale. Elle me tendait un bol plein d'un jus grisâtre qui devait être du thé vert saccariné, lacté à la poudre, dans une soucoupe dépareillée. Ce n'était pas tout, car entre le bol et la soucoupe se dressait précairement une grande tranche de pain sec dont je me mis à dire, avec une sorte d'angoisse, « elle va tomber », comme si cela avait de l'importance, qu'elle tombât ou non. Un instant plus tard, moi-même, je tenais, dans mes mains tremblantes, ce petit amas d'objets hétérogènes et branlants, où voisinaient le dur, le liquide et le mou, et sans comprendre comment le transfert venait de s'effectuer. Je vais vous dire une chose, quand les assistantes sociales vous offrent de quoi ne pas tourner de l'œil à titre gracieux, ce qui pour elles est une obsession, on a beau reculer, elles vous poursuivraient jusqu'aux confins de la terre, le vomitif à la main. Les salutistes ne valent guère mieux. Non, contre le geste charitable, il n'existe pas de parade, à ma connaissance. On penche la tête, on tend ses mains toutes tremblantes et emmêlées, et on dit merci. Merci, madame. Merci, ma bonne dame. À qui n'a rien, il est interdit de ne pas aimer la merde. C'est génial.
Vous mettez la main devant la bouche, Anne Alvaro.
C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Le à qui n'a rien.
Il est interdit de ne pas aimer la merde.
Et donc, ce Molloy, c'est un à qui n'a rien. Et qui erre, et qui se balade, et qui se cache, qui préfère pas qu'on, qui veut qu'on lui foute la paix, quoi. Il faut lire Molloy. C'est Lindon, qui a édité Beckett, qui disait quand il a découvert Molloy, il a commencé à le lire, il était dans le métro.
Donc Jérôme Lindon, son grand éditeur, quoi.
Ouais. Oui, et il a eu un fou rire, et il pouvait plus s'arrêter de rire, il planquait son manuscrit en essayant de justement qu'il tombe pas, qu'il se déglingue pas parce qu'il n'était pas broché, rien du tout. C'est des pages que la femme de Beckett lui avait apportées, ainsi que Godot, et Eleutheria, je crois, une des premières pièces qu'il a écrites. Et il riait tellement, mais c'est irrésistible, c'est d'une drôlerie, c'est terrible, et c'est mon préféré. J'ai pas tout lu de Beckett, hein, mais c'est mon préféré, j'y reviens tout le temps. Molloy, c'est une merveille.
Qu'est-ce qu'elle disait, Marie de Pusset, pour comme ça vous introduire à Samuel Beckett dans ce texte?
En fait, c'est pas Molloy que j'ai lu d'abord, grâce à Marie de Pusset. C'est un texte qui est dans Tête morte, qui s'appelle Assez.
Assez, A2SEZ.
Oui, basta. Enough. Et c'est quand j'ai lu les extraits, les citations qu'elle faisait de ce texte, j'ai eu envie de le lire, de le trouver, et il m'a aidée, il m'a nourrie pour un travail que je faisais sur une pièce de Singe qui s'appelle La source des saints, que montait Michel Cerda avec Yann Boudot. Et ce texte Assez est devenu, pour moi, mon texte, mon jardin secret. Et à partir de là, j'ai commencé à m'orienter sur les textes qu'elle citait, dont Molloy. Voilà.
C'est étonnant, c'est toujours un mystère, à partir d'une citation d'un texte où on se dit, ça c'est pour moi, ça je vais aller voir. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on reconnaît là? Qu'est-ce qu'on entend? On va aller dans une librairie ou à la bibliothèque?
C'est très intime. Ouais. Oui, c'est très intime qui vous touche au cœur à ce moment-là. Parce que c'est pour moi maintenant. Mmh. C'est comme ça aussi que j'ai l'impression que j'essaye de m'orienter, hein, dans mes choix de théâtre. Je sens que c'est pour moi maintenant. Mmh. pas que c'est pour moi, pas que j'ai envie de jouer ça, ou mais que c'est le moment juste pour la rencontre. Voilà. Ouais. J'essaye. Hein. Je sais pas que j'y arrive tout le temps.
Le dernier livre que vous avez sorti de votre bibliothèque pour nous, Anne Alvaro, c'est une réflexion sur la traduction, la langue maternelle. C'est un texte qui est apparu en 2012 aux éditions Calligramme, un texte de Mireille Ganzel. Traduire comme transhumer. Pourquoi vous avez choisi ce texte-là?
J'avais envie d'évoquer d'abord Mireille Ganzel, qui m'a fait découvrir Aaron Appelfeld. Il y a toujours, c'est toujours un auteur qui fait découvrir un autre. Et une femme que j'ai rencontrée.
Mireille Ganzel.
Mireille Ganzel, j'aime beaucoup cette femme. Elle a écrit de la poésie, elle a traduit de la poésie, mais elle a traduit de la poésie, elle a traduit des auteurs comme Nelly Sachs ou Peter Kunze, je ne sais pas si on prononce comme ça, et des auteurs vietnamiens, de la poésie, des poètes vietnamiens. Elle a appris le vietnamien pour traduire de la poésie vietnamienne. Femme étonnante. Et je me suis souvenue de ce livre. Je l'ai retrouvé comme ça. Enfin, je fais le geste de tâtonner la bibliothèque avec les cervicales un peu cassées quand même, parce qu'il faut lire tous les titres comme c'est pas bien rangé. Et quand je l'ai retrouvé, je me suis dit oui, c'est bien pour parler de la traduction. La traduction, l'interprétation, on est des traducteurs, des acteurs. On est des interprètes aussi, dans le sens où on interprète des rêves, ou on se fait l'interprète. On fait entendre le texte, on est porte-parole. C'est tout ça, la traduction.
Alors, c'est un texte théorique. Il est apparu en 2012 et vous nous en lisez un extrait.
Oui, c'est un texte théorique et en même temps, c'est un texte qui est fait que de souvenirs. C'est un texte biographique.
De ses traversées, quoi.
De ses traversées à elle, de sa famille, des auteurs qu'elle a rencontrés, qu'elle est allée chercher pour les entendre dire, comme, je crois, Peter Kunze. Elle est allée lui rendre visite en Allemagne de l'Est pour l'entendre dire son texte, pour pouvoir le traduire. Ça, c'est beau, ça. Pour entendre le son. Quand une lettre arrivait de Budapest, le père s'absorbait dans sa lecture. La maisonnée retenait son souffle. Il régnait un silence religieux. Assis dans le grand fauteuil, il était soudain très loin. Puis, avec une gravité rituelle, il annonçait « Ce soir, je vais vous traduire ». Personne ne manquait alors à l'appel. Ni même ne se serait permis de faire attendre. Je me souviens, cette écoute des silences, lorsque le père cherchait le mot juste, ou la construction de la phrase, parfois se corrigeant, se reprenant. Interstice de mystère, fine passerelle de seconde. La petite fille aimait beaucoup entendre les mots qui parlaient d'elle, qui plus est, les entendre prononcés par ce père, plutôt pointilleux sur les compliments. Il y eut un soir mémorable, car c'est en cet instant que, pour la première fois, je vécus de l'intérieur, sans en mesurer encore la portée, ce que cela allait signifier pour moi, traduire. Les choses se sont passées le plus simplement du monde, comme souvent quand c'est important. Or, dans ce passage de la lettre, il était question de moi, bonheur. Mon père traduit, par un premier mot, le terme employé par son frère ou une de ses sœurs. Chérie. Bute sur le mot suivant et répète une première fois cet adjectif, somme toute assez banal. Puis poursuit et bute de nouveau et le répète une deuxième fois. C'est là que se produit le déclic décisif. J'ose l'interrompre et je demande. Mais en hongrois, c'est le même mot? Il esquive. Ça veut dire la même chose. J'ose insister. Mais c'est quoi les mots en hongrois? Alors, un à un, il énumère presque avec gêne, en tout cas avec une retenue comme devant une impudeur, les quatre mots magiques que je n'ai plus jamais oubliés. Dragam, Kedveshem, Orionyaskam, Ideshem. Fasciné et impitoyable, je le traque, le suppliant de me traduire ce que chacun d'eux veut dire. Dragam, ma chérie. Ketveshem, ma gentille. Et ces deux autres mots, dont la littéralité sensuelle me resta inoubliable. Orionoshkam, ma petite en or. Ideshem, ma petite en sucre. Je découvre ce soir-là que les mots, comme les arbres, ont des racines dont mon père me révèle la magie. Oroni, l'or. Idesh, sucré, doux. D'un coup, l'épure du français s'est embrasée devant cet arc-en-ciel de sensations, chacune enrichie d'un possessif tendrement enveloppant. C'est beau.
C'est incroyablement beau.
Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau.
Ouais.
Et c'est merveilleux. Chaque chapitre, c'est d'une beauté. C'est poignant hein, aussi.
Ouais. Vous voyez, on a vraiment bien fait de vous laisser faire parce que dans un premier temps, on voulait commencer par ce texte-là. On se disait, bah oui, c'est fondamental, le rapport aux mots, à la traduction. Et en fait,
oui.
Qu'on retombe sur nos pieds et que ce soit la fin du déballage de votre bibliothèque avec ces mots et la découverte par cette petite fille de...
Idesh, sucré.
Des mots tendres dans la voix de son père, ouais. C'est sublime. Merci ouais. Beaucoup, Anne Alvaro,
merci à vous.
D'avoir
merci,
déballé merci. Pour nous votre bibliothèque.
Someone left me all alone. I am far away from home, scared to be wild and free. But I could be an Eskimo, sleeping cold out in the snow. Even they find a nose to
Au son pour cette bibliothèque, c'était Grégory Wallon à la réalisation Vivien Demeyer. Vous pouvez réécouter la bibliothèque d'Anne Alvaro sur franceculture.fr à la page du Book Club. Vous pouvez aussi retrouver toutes les références des textes qu'elle a choisis et lus pour vous. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club et à Jeanne Alleos en particulier. Yes, we all go down to the river.